Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
La maternité de l'hôpital de l'Amitié est fermée depuis plusieurs mois et sa réouverture est toujours attendue. Qu'est-ce qui justifie ce retard ?
Le retard dans l'ouverture de la maternité est dû aux mesures qui ont été préconisées pour la remise en état de la maternité, la réorganisation des services qui ont pris du temps. Ces mesures se sont révélées très importantes et donc nous avons dû revoir notre calendrier pour la remise en marche de cette importante institution. Et donc nous pensons que l'ouverture va maintenant se faire dans les 2 semaines qui viennent.
Quelles sont les mesures préconisées pour la mise en marche de cette maternité ?
Le problème qui se posait à la maternité était une question de mauvaise gestion d'un travail. C'était un problème qui indiquait un dysfonctionnement profond au niveau de la maternité, dysfonctionnement au niveau technique et dysfonctionnement aussi au niveau humain et professionnel. À cela s'est ajouté d'autres constats, notamment le fait que la maternité elle-même, sur le plan physique, est détériorée, il y a le toit qui coule, il n'y a pas d'eau, le cadre n'était pas du tout attrayant. On a profité donc de cette mesure-là pour remettre à neuf, pas à neuf, mais en fait rafraîchir la maternité, refaire la peinture, retravailler la plomberie, disons boucher les trous donc qui occasionnaient des ruissellements. Tout cela a nécessité du temps. Aujourd'hui, ces travaux sont très avancés. Il reste la peinture qui doit être faite, mais comme je l'ai dit, il y a des aspects humains et professionnels, il y a des aspects organisationnels et administratifs qu'il faut résoudre. Sur le plan administratif, il y a un problème de gestion et plus particulièrement le fait qu'il manquait de transparence dans la gestion. Les tarifs des services n'étaient pas affichés. De ce fait-là, les usagers de la maternité se voyaient imposer des tarifs. Un tableau a déjà été fait affichant les tarifs officiels pour permettre aux usagers de la maternité de savoir ce qu'ils doivent payer.
Mais outre ces problèmes, on déplore également des cas de rackets dans les maternités et les hôpitaux. Quelles sont les mesures prises par votre département pour faire face à ce système qui affecte le fonctionnement des services de santé ?
On va, en commençant déjà par la maternité de l'hôpital de l'Amitié, veiller à ce que les tarifs soient affichés. Nous avons, en plus donc, de la sensibilisation qui se fait, qui est un travail continu pour le changement de comportement. À l'hôpital de l'Amitié, par exemple, il n'y avait pas de conseil de gestion pour encadrer la gestion de l'hôpital. Et c'est le cas dans la plupart des hôpitaux. Ces conseils de gestion, on ne sait pour quelle raison, ne fonctionnaient plus. Et donc, on vient de prendre un arrêté qui réorganise les conseils de gestion pour leur donner une composition plus élargie et leur donner plus de force. Et donc, ces conseils de gestion vont démarrer cette semaine. Et à l'hôpital de l'Amitié, ils vont disposer d'un conseil de gestion qui, maintenant, va avoir un œil sur le fonctionnement de l'hôpital. Comme vous le savez, on a mis en place une ligne verte qui est à la disposition du public. 12-12. Lorsque vous êtes victime d'arnaque, vous pouvez appeler pour signaler que bon, vous avez été victime de malversation. Ce qui me permettra, moi, d'avoir des faits sur lesquels réagir.
C'est pour dire que cette ligne verte fait partie de vos mécanismes de suivi ?
Voilà, cette ligne verte fait partie de nos mécanismes, non seulement de suivi, mais c'est un mécanisme qui permet d'assurer la transparence, qui donne du pouvoir à la population, parce que vous avez quelqu'un à qui vous avez un endroit où appeler à l'instant. Sauf la nuit, mais on est en train de mettre en place un dispositif pour qu'à n'importe quelle heure, on puisse appeler cette ligne verte pour signaler les problèmes. En même temps, nous avons réaffecté le personnel. Tous les personnels dans les hôpitaux ont été changés. Les gestionnaires ont été changés. En ce qui concerne la surveillance des malversations, pour les médicaments par exemple, nous allons mettre en place un système de surveillance des ordonnances lit par lit pour voir d'où viennent les médicaments, pour surveiller les sources des médicaments. Et si le patient ne nous donne pas une ordonnance avec un reçu, donc d'achat de médicaments, nous suspectons là une malversation et les responsables du service où se trouvent ces patients vont être soumis à des sanctions.
Vous ambitionnez réduire sensiblement la mortalité maternelle alors que le problème de plateau technique et des ressources humaines pour la prise en charge font défaut. Où en sommes-nous avec cette lutte et pour quels résultats ?
Ça, c'est une importante question. Le taux de mortalité maternelle est le deuxième le plus élevé du monde. La réduction, c'est un programme en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de composantes, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent, déterminent la mortalité maternelle. Nous avons commencé d'abord nous concentrer sur la question de la qualité des ressources humaines. L'effectif le plus élevé du personnel qui est intégré dans la santé publique est celui de la santé. Et donc, nous accordons beaucoup de priorité au personnel qui s'occupe de la santé de la mère et de l'enfant. Et nous avons réorganisé les services pour nous assurer que ces personnels, surtout dans nos grandes maternités, sont disponibles en effectif suffisant. Ce que nous avons aussi fait avec l'appui de URFPA, nous sommes en train de recycler les sages-femmes à des pratiques nouvelles de suivi des femmes enceintes et surtout de gestion des accouchements et de gestion des grossesses à risque et de former des médecins dans des techniques améliorées de césarienne. Et nous avons engagé aussi une grande campagne de mobilisation des ressources auprès de nos partenaires internationaux avec l'appui de la Banque mondiale. Nous avons été admis dans un grand mécanisme de financement mondial qu'on appelle le GFF en anglais, Global Financing Facility. Ce mécanisme global, c'est un partenariat mondial qui appuie les pays à améliorer la santé de la mère et de l'enfant de telle sorte que chaque femme ait la possibilité de mettre au monde qu'elle soit vivante et que l'enfant reste vivant. Et ce processus a commencé et nous espérons pouvoir, au plus tard dans les 6 mois qui viennent, avoir un dossier d'investissement bien ficelé que le gouvernement peut utiliser pour mobiliser les ressources au niveau mondial.
Une autre difficulté, le service pédiatrique de l'hôpital de l'Amitié ne dispose d'un médecin, 2 infirmières seulement pour les consultations, pas de matériel pour les prestations, un seul thermomètre, ni de médicaments pour les premiers soins. Peut-on espérer à une solution dans l'immédiat?
Oui, mais si un service pédiatrique a été créé, je ne suis pas au courant. Et je suis désolé, je vais aller voir ce qui se passe. On ne doit pas mettre en place un service pédiatrique de seconde classe. Il y a des fondamentaux pour le traitement des enfants. Donc je vais aller vérifier et si les conditions ne sont pas bonnes, je vais devoir mettre fin à ce service.
Monsieur le ministre, moi je pense que c'est une manière aussi de décharger un peu l'hôpital pédiatrique.
Oui, mais cette manière doit être organisée. On est en train, avec le complexe pédiatrique, d'organiser la décentralisation des services pour les enfants. Et donc, cela ne doit pas se faire en désordre. Vous voyez les conséquences. Si ça se fait en désordre, il n'y a rien. Donc, la question de la santé des femmes et des enfants est une question qui préoccupe au plus haut point le président de la République et tout le gouvernement. Et des efforts sont en train d'être faits. Pour l'instant, au moment où je vous parle, il y a un décret qui est en préparation pour l'examen du gouvernement. Un décret qui établit la prise en charge gratuite des femmes enceintes et des bébés de 0 à 5 ans. Et nous sommes en train de faire une étude pour voir qu'est-ce que ça va coûter au gouvernement de nous assurer que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont prises en charge de façon gratuite, hein, surtout pour des soins essentiels, jusqu'à ce que la plupart des familles soient à même de prendre en charge leurs soins.
Hein. Oui, vraiment, il ne doit pas avoir de services de seconde classe, mais ces problèmes des premiers soins concernent également les services d'urgence des centres hospitaliers de Bangui. Quelles sont vos priorités de l'heure et celles que vous avez à moyen et long terme?
Bon, on en a toujours parlé, les services d'urgence. Tout d'abord, vous savez très bien que pendant longtemps, il y avait des services d'urgence, mais sans médecin. Le point de départ de la prise en charge en urgence, c'est d'avoir un diagnostic de qualité, d'avoir un médecin qui vous accueille. Ça, c'est en train d'être fait. La mise à disposition des médicaments, on est en train de travailler dessus, comme vous avez vu. Ça aussi, c'est un secteur qui est très vaste. Nous avons commencé une grande campagne et parallèlement, nous sommes en train de faire des démarches pour obtenir des médicaments de qualité à moindre coût. Aujourd'hui, par exemple, dans le budget qui vient d'être adopté, pour la première fois, le gouvernement a accepté d'inscrire des équipements d'urgence pour nous permettre de commencer à équiper les services de réanimation. On a des décès stupides. On a des gens qui, parce que bon, il n'y a pas d'oxygène, ils viennent, ils meurent. Quand vous allez à l'hôpital communautaire, il n'y a pas d'oxygène. Le plateau technique est nul. On n'a même pas de défibrillateur cardiaque. On n'a pas d'aspirateur. On n'a pas de médicaments d'urgence pour commencer les premiers soins gratuits. Donc tout cela, à partir de cette année, on va acquérir ce matériel, cet équipement. On pourra avoir un service de réanimation digne de ce. Donc, on a beaucoup de partenaires qui donc, nous offrent des possibilités d'avoir de l'assistance technique pour renforcer les services de réanimation.
Monsieur le ministre, merci.
C'est à moi de vous remercier.